Bonjour à chacun, à chacune de vous. Sur ce beau thème, difficile thème de l'épreuve, vivre l'épreuve. À l'école de Thérèse, nous arrivons à la troisième étape. Et je vous propose de partager avec vous ce que Thérèse a vécu au niveau de ses tentations contre la foi. L'épreuve de la foi, c'est par excellence l'épreuve du monde actuel, avec son athéisme, avec son matérialisme, ses soupçons sur la foi, sa dérision. C'est pourquoi Thérèse a quelque chose à nous dire, pour que nous apprenions à vivre de foi dans un monde incroyant et hostile. Jésus m'a fait sentir, c'est-à-dire expérimenter, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie des plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Et elle décrit un pays environné d'un épais brouillard. Il pénètre dans mon âme et l'enveloppe de telle sorte qu'il ne m'est plus possible de retrouver en mon âme l'image si douce de ma patrie. Sa patrie, c'est le ciel. Tout a disparu. Et si Thérèse essaye de retrouver cette présence du ciel au travers d'un acte de foi, son tourment redouble. Les ténèbres qui obscurcissent son âme et la voix des pécheurs semblent se moquer d'elle. Elle dit « Tu rêves la lumière, tu rêves la possession de Dieu, tu crois sortir des brouillards, avance, avance, la mort te donnera une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. » Et Thérèse parle d'un mur qui s'élève jusqu'aux cieux et couvre le firmament. Voyez, si nous n'avons pas forcément la même expérience intérieure que Thérèse, on peut dire que nous avons la même expérience extérieure. Nous sommes dans un monde qui proclame tout à fait cela. Et Thérèse va le vivre sous le mode de tentation contre la foi. Mon âme est exilée, le ciel est fermé pour moi. Donc ces tentations ne portent pas sur l'existence de Dieu, mais bien sur l'existence du ciel. C'est-à-dire, Thérèse continue à croire en Dieu, mais elle le dira clairement, il me semble qu'après cette vie mortelle, il n'y a plus rien. Je ne puis vous exprimer les ténèbres dans lesquelles je suis plongé. Tout a disparu pour moi. Et il ne me reste que l'amour. Alors ça, c'est très important, et on y reviendra si vous voulez bien. Si vous saviez quelles affreuses pensées m'obsèdent, priez pour moi, afin que je n'écoute pas le démon qui veut me persuader de tant de mensonges. C'est le raisonnement des pires matérialistes qui s'impose à mon esprit. Alors, quel regard Thérèse porte-t-elle sur ses tentations contre la foi, ces épaisses ténèbres, comme elle dit, qui sont celles du péché du monde. On peut dire que c'est même la racine du péché, puisque c'est le péché de l'orgueil, le péché de l'orgueil de l'intelligence qui affirme que Dieu est mort, qui nie Dieu, et, ou qui veut prendre la place de Dieu. De façon mystérieuse, Thérèse va en quelque sorte participer à ce que l'agneau de Dieu a porté et vaincu dans sa passion, alors même qu'il était blessé, transpercé, objet de dérision. Il a porté le péché du monde. D'une certaine manière, Thérèse est blessée et même transpercée par ce péché qui nie Dieu, qui nie la promesse de Dieu. Elle va être particulièrement transpercée au plus profond du cœur à l'occasion de l'énorme mystification montée par Gabriel Lostar. Gabriel Lostar qui prenait un pseudonyme, Léo Taxil. Cet homme va inventer une histoire qu'il va répandre dans le monde de la presse, l'histoire de Diana Vaughan. Et il raconte l'histoire de cette jeune fille américaine qui s'était convertie après avoir appartenu à la franc-maçonnerie et après s'être livrée à Satan. Et donc cette histoire dans le milieu catholique va circuler. Bien évidemment, le Carmel de Lisieux va l'apprendre et Thérèse va y croire de tout son cœur. Cette merveilleuse conversion de cette jeune fille livrée à Satan qui se convertit, elle va prier pour Diana. Et elle va même écrire à Diana, la lettre arrivera donc à Gabriel Lostar. Elle va envoyer sa propre photographie dans le rôle de Jeanne d'Arc, cette célèbre photo où on voit Thérèse déguisée en Jeanne d'Arc. Jusqu'au jour, et ce jour c'est le 19 avril 1897, c'est donc même pas 6 mois avant sa naissance au ciel, jusqu'au jour où Léo Taxil révèle publiquement à Paris l'inexistence de cette Diana Vaughan, expliquant qu'il l'a lui-même inventée, au cours d'une conférence de presse où il projette la photo de Thérèse. Donc vous imaginez le bruit que ça va faire, non seulement dans la presse, mais dans le milieu catholique, que cette dérision de la conversion, dérision de la vie spirituelle, jusqu'à ce que ça vienne toucher le Carmel et Thérèse en plein cœur. Thérèse va bien évidemment savoir tout cela et vivre au plus intime de son cœur d'être trompée, bafouée, blessée dans les dimensions les plus intérieures de sa foi, de son amour. Jeanne d'Arc, son modèle. Elle veut mourir les armes à la main. Sa foi, son amour, et tout cela est tourné en dérision. Donc les textes et l'attitude de Léo Taxil ont certainement été pour Thérèse un véritable poison. Tout en étant apparemment protégée par la clôture du Carmel, Thérèse a réellement bu la coupe la plus amère, qui est celle du péché tel qu'il se présente dans le monde actuel, donc dans le monde qui était le sien, mais qu'on peut dire bien évidemment encore plus aujourd'hui le monde actuel. Quand cet esprit du monde se moque de Dieu, se moque des croyants, se moque de la foi, et tourne tout cela en dérision. Elle explique qu'elle a vécu cette épreuve au moment où j'ai eu la force de la supporter. Plutôt, je crois bien qu'elle m'aurait plongé dans le découragement. Maintenant, elle enlève tout ce qui aurait pu se trouver de satisfaction naturelle dans le désir que j'avais du ciel. Il me semble maintenant que rien ne m'empêche de m'envoler, car je n'ai plus de grand désir si ce n'est celui d'aimer jusqu'à mourir d'amour. Elle fait donc l'expérience que ce n'est plus sa foi qui la soutient, mais c'est son amour qui soutient sa foi. Son amour pour Jésus, mais plus précisément, à partir de maintenant, son amour pour ses frères et sœurs, c'est-à-dire pour nous. Sa charité, donc, ne va cesser de croître, s'accompagnant d'une espérance sans limite, c'est la suivante, que tous soient sauvés. Espérer que tous soient sauvés. Et cette profonde souffrance vécue au niveau de la foi, portée par l'amour, est illuminée par la joie. C'est frappant de voir ces deux dernières années, ou cette année et demie, avant sa naissance au ciel, comme la joie de Thérèse va grandir. Et elle nous en donne la formule, elle nous en donne l'explication. Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Ma joie, c'est de t'aimer. Donc elle a perdu la joie de croire. Croire est un labeur, une souffrance. Mais elle approfondit la puissance de cet amour qui se déploie de plus en plus en elle et qui lui permet de porter cette foi douloureuse. Plus profondément encore, Thérèse expérimente en quelque sorte, au travers de ce péché de l'orgueil de l'intelligence qui nie Dieu, Thérèse expérimente en quelque sorte les racines du péché. Et ces racines du péché ne sont pas chez les autres, mais elle prend de plus en plus conscience que ces racines du péché sont aussi en elle. Elle va rentrer dans un repentir de plus en plus marqué. Elle s'assoit à la table des pécheurs. Et elle demande pardon en son propre nom. C'est une vraie grâce de repentir. Et au nom de ses frères, c'est, on pourrait dire, une dynamique de participation. Ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs. C'est la parole du publicain. Votre enfant vous demande pardon. Votre enfant vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger le pain de la douleur et ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que vous avez marqué. Et il est vrai que dans les écrits de Thérèse, on voit un net changement. Pour la première fois, en janvier 1897, dans sa poésie « À mon ange gardien », elle désigne les hommes pécheurs comme ses frères. C'est la première fois qu'on voit apparaître cette formulation. On sait qu'en 1887, avec l'affaire Pranzini, elle avait dit de lui « mon premier enfant ». Mais progressivement, cette grâce qui lui est donnée va s'approfondir, va changer d'expression pour devenir « mes frères ». Elle le répétera dans sa dernière poésie « Pourquoi je t'aime, ô Marie ». Elle parle de ses frères pécheurs. Et c'est capital pour nous, parce que, bien évidemment, Thérèse n'a jamais commis de péché mortel, donc de péché grave. Elle a bien conscience du don de la grâce qui agit en elle. Et sa quête de perfection, je vous l'ai dit d'autres fois, peut très bien aussi se teinter de perfectionnisme. Eh bien, sa tendance au perfectionnisme est terrassée par l'épreuve de la foi. Là, elle goûte, en quelque sorte, à l'amertume du péché. Elle va donc laisser grandir cette grâce de charité qui va porter de plus en plus sa foi en souffrance. À l'automne 1896, elle retranscrit ce passage d'Isaïe : « Si tu prodigues ton âme à celui qui a faim, et si tu remplis de consolation une âme affligée, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et les ténèbres seront comme le midi. Elle comprend que c'est vraiment l'heure de se livrer, de se donner totalement. Voyons ensemble comment Thérèse traverse cette épreuve et surtout que nous apprend-elle, parce que nous avons besoin de son exemple et de ses conseils, puisque c'est ce que nous vivons. D'abord, elle use de prudence, comprenant bien qu'elle est dans des tentations contre la foi. Elle n'est pas dans un dialogue de la raison avec la foi, de la foi avec la raison, qui est aussi une caractéristique d'aujourd'hui. Essayer de comprendre avec mon intelligence les données de la foi. Là, il s'agit de tentations, donc des démons qui veulent l'amener à douter. Elle use donc de prudence, c'est-à-dire que premièrement, elle adopte la tactique de la fuite. À chaque nouvelle occasion de combat, je tourne le dos à mon adversaire, sans daigner le regarder en face. Ce qui veut dire clairement qu'elle tourne le dos à la pensée qui lui vient. Car accepter le duel, ce serait accepter de prendre en considération les doutes, donc la tentation, contre la foi, et entrer dans le jeu de l'ennemi. C'est une règle pour nous, dès qu'intérieurement me vient une pensée ou une image qui est une tentation, lui tourner le dos, c'est-à-dire orienter mon intelligence immédiatement vers Jésus. Donc accepter le duel, ce serait entrer dans le jeu de l'ennemi, c'est-à-dire reconnaître la valeur de ce qu'il est en train de me dire. Ce serait donc déjà capituler et offenser Dieu. Ce serait déjà le renier, puisque ce serait déjà accueillir ce doute, cette tentation de doute. Donc Thérèse prend le parti de fuir, fuir toute compromission. Et distinguons bien la tentation et fuir toute compromission avec la nécessité d'avoir un certain esprit critique, de pouvoir réfléchir aux données de la foi, à l'apport de la science, à la confrontation entre la science et la foi, hein, qui est tout le dialogue actuel lancé par Jean-Paul II. Donc Thérèse tient pour sage de ne pas s'exposer au combat lorsque la défaite est certaine. Donc elle sent qu'elle est particulièrement fragile contre cette tentation. Et elle refuse de s'arrêter à ces pensées que lui souffle la voix maudite. Jamais elle ne discute, jamais elle ne raisonne avec cette pensée. Elle sait que c'est inutile et que même c'est très dangereux, dit-elle, de les examiner de près, de les discuter pour en mesurer la validité. Donc elle ne va pas au devant de l'ennemi, puisque c'est lui qui la provoque, elle ne s'y arrête pas. Donc ça c'est une première leçon, capitale pour nous, quand vient la tentation, que nous identifions la tentation, tourner le dos à mon adversaire et prendre la fuite. Deuxièmement, résister sans concession, ne rien concéder à son adversaire, pas le plus petit point de vérité reçu. Résister à la tentation, c'est entrer dans l'épreuve. Résister à la tentation, c'est accepter de souffrir. Et accepter de souffrir, nous pouvons le vivre que en aimant. C'est-à-dire continuer à tenir la main de Jésus, me réfugier en lui ne pas me décourager. Thérèse le dit très clairement, courir vers mon Jésus. Et là, exprimer son choix. Je choisis Jésus et le camp de Jésus, donc le camp de Dieu, contre le camp de l'ennemi et de cette tentation. Confessez le ciel, dit-elle, jusqu'à verser son sang. Voyez, le mal, c'est nier Dieu. Le mal, c'est dire Dieu est mort. Le mal, c'est vouloir se mettre à la place de Dieu. Donc, une tactique de fuite. Deuxièmement, résister sans concession, avec courage, avec ténacité. Et troisièmement, affirmer sa foi. Thérèse dit, je subis forcément ces pensées, ces tentations. Mais tout en les subissant, je ne cesse de faire des actes de foi. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas éviter la pensée qui lui vient. Elle la subit. Mais elle lui tourne le dos, elle se réfugie en Jésus, et là, elle dit sa foi. Elle pose volontairement des actes de foi. Elle dit qu'elle en aura posé plus en un an qu'en 24 ans. Comprenons bien ce que cela veut dire. Avez-vous la foi? Quand je réponds « oui, j'ai la foi », ça veut dire que je crois en Dieu, que ça ne me pose pas de problème. Ça coule de source. J'ai la foi. On pourrait l'exprimer d'une autre façon. J'ai à l'intérieur de moi une réserve. Et quand j'en ai besoin, hop, je puise. Oui, oui, j'ai la foi. Je crois en Dieu. Et quand la réserve, je l'ai entièrement utilisée, quand il n'y a plus de réserve de foi, quand je commence à réaliser à l'intérieur de moi que est-ce que j'ai la foi ? Eh bien, c'est là que Thérèse nous conseille, quand je n'ai plus de foi, alors que je l'avais, que je n'en ai plus, c'est le moment de vouloir croire. Non pas avoir, mais vouloir. De toute façon, la foi est un don de Dieu. Donc j'ai la foi parce que Dieu me donne la foi. Mais quand, dans l'épreuve, il me semble que je n'ai plus. Alors c'est le moment de prendre le relais avec ma volonté, volonté d'amour, avec ma liberté, et de choisir. Je choisis le camp de Dieu et je le proclame. Je veux croire. Ça peut paraître volontariste, mais c'est si profond à l'intérieur de nous que certes c'est un acte de volonté, mais qui est porté par la charité. C'est Dieu qui agit en nous. Et nous collaborons à son action. Donc je n'ai plus la foi apparemment, mais il me reste encore cette bonne volonté de croire et la décision non sentie que je prends pour offrir à Dieu mon adhésion. C'est une offrande de moi-même. C'est un acte d'amour pur. C'est un acte de foi gratuit. C'est un acte d'amour envers Jésus qui essuie sa face, sa sainte face. C'est un acte d'amour qui m'associe à Jésus qui se heurte à l'incroyance, au refus des hommes. Et là, je choisis de ne pas renier Dieu. Tant pis d'être dans ce petit nombre dont on se moque pour rester avec lui. Donc, tourner le dos à mon adversaire, lui résister avec courage, me jeter dans les bras de mon Jésus, affirmer ma foi. Thérèse nous donne encore un riche petit moyen à en faire le lieu de l'amour. Donc, de l'amour envers Jésus, vous l'avez compris, mais aussi, et surtout peut-être là, de l'amour envers le prochain. Et oui, j'ai eu le bonheur d'avoir la foi depuis de longues années. Et voilà que je suis éprouvé dans ma propre foi Eh bien, elle dit à Jésus qu'elle est heureuse de ne plus jouir du ciel, que ça lui apporte plus de joie, plutôt une peine, une grande peine. Mais pour ouvrir ce ciel aux pauvres incrédules, pour les autres, elle accepte de ne plus avoir une réserve de foi pour que d'autres en aient. Est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour? Plus la souffrance est intime, moins elle paraît aux yeux des créatures, plus elle vous réjouit. Alors comprenons bien encore là, ce n'est pas la souffrance qui réjouit le Seigneur. C'est un amour humble. C'est-à-dire, plus la souffrance vécue dans l'amour est intime, et moins elle paraît aux yeux des créatures, c'est que personne ne le sait justement, sauf le Seigneur. Plus elle vous réjouit. Pour bien comprendre cela, ce que Dieu aime, c'est l'amour humble, l'amour caché. L'amour que lui seul et moi, nous voyons. Et parfois même, je ne le vois même pas, mais lui le voit. Car Jésus est amour. Jésus est humilité. Et ce qui lui plaît le plus, ce qui lui donne le plus de joie, c'est quand nous vivons, ne serait-ce qu'un peu, cet amour humble. Et donc c'est le but de Thérèse, oui. Faire la joie de Dieu, faire plaisir à Jésus. C'est pour faire plaisir à Jésus, je ne veux pas donner pour recevoir, c'est gratuit, c'est pour lui seul. C'est gratuit, c'est pour lui seul, et c'est pour mes frères, pour que d'autres aient la joie. Voilà donc quelques petits moyens qui, je pense, peuvent nous aider puissamment. Elle en donne toute une série d'autres que je vais vous livrer encore, qu'on pourrait appeler la cesse de la joie. Parce que ce qui est frappant dans cette année et demie qui finit la vie de Thérèse de Thérèse, c'est cette joie qui ne cesse de grandir et qui devient une véritable gaieté pendant la fin de sa vie. Comment Thérèse fait vit-elle cette ascèse de la joie? Premier petit moyen, Thérèse aime murmurer le nom de Jésus. Dans ses écrits, il revient plus de 1600 fois. Jésus. Yeshua en hébreu. Ou dans l'expression la plus ancienne de l'hébreu, Yehoshua. Qui comprend les quatre lettres du tétragramme sacré du nom de Dieu, associé au Shin, qui est la lettre du Sauveur, du Messie. Yeshua. Et donc Thérèse murmure ce nom, Jésus. Pour elle, c'est le nom divin, synonyme du nom de Dieu. Dieu ou le bon Dieu, c'est Jésus. Et elle alterne souvent, elle dit « mon Dieu, mon Jésus ». Dieu, pour elle, désigne toute la Trinité, ou bien une autre personne divine, surtout le Père. Mais dans l'immense majorité des fois, quand elle prononce le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est en Jésus qu'elle contemple la divinité, qu'elle contemple sa miséricorde infinie, sa beauté suprême. Et en cela, elle s'inscrit dans la grande tradition chrétienne, proche de nous, tradition de Saint Bernardin de Sienne, et plus loin de nous, dans toute la tradition de la prière de Jésus, l'Orient chrétien. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Elle expérimente, voyez, que le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est Jésus. Et ce nom, elle le murmure, elle le garde dans son cœur, sur ses lèvres, tout au long du jour, parce que le murmurer, c'est l'appeler. L'appeler, c'est rencontrer sa présence. Rencontrer sa présence, c'est pouvoir s'unir à lui. Non seulement elle le murmure, mais elle le chante. Le chant de son cœur. Elle découvre que c'est ce chant de son cœur qui importe au Seigneur. C'est la plus petite chose que je puisse donner facilement, généreusement au Seigneur. Chanter. Chanter ma joie de l'aimer. Chanter son amour. Chanter mon amour, Jésus. Je t'aime. Et c'est ce chant de son cœur qui importe au Seigneur et qui attire sa miséricorde. Elle est en pleine expression de la petite voix. Elle la possède totalement et elle s'y livre entièrement. Elle pousse même la délicatesse jusqu'à chanter, sourire, de telle façon que le Seigneur ne se rende même plus compte qu'elle est en peine. Je l'aime tant que je voudrais pouvoir lui faire plaisir sans même qu'il sache que c'est moi. Donc elle chante sa louange, elle chante son émerveillement, elle chante son adoration, elle chante le bonheur du ciel. Je ne ressens aucune joie, je chante simplement ce que je veux voir. Je chanterai même lorsqu'il me faudra cueillir mes fleurs au milieu des épines. Vous voyez, ce sont des moyens tout simples, mais comme ça nous aide, le nom de Jésus, le chant de mon cœur. Elle parle beaucoup aussi du regard de Jésus, vivre sous le regard de Jésus, le regarder et se laisser regarder. Par exemple, elle se compare au petit oiseau qui a toutes les aspirations de l'aigle. Que va-t-il devenir ? Mourir de chagrin ? Se voyant aussi impuissant, non. Il ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie. Si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours. Il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là, quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Et voilà le secret. Quel bonheur ! Ce bonheur-là, nous ne l'expérimentons pas forcément, ou pas encore, mais elle nous donne la recette. Rester là, c'est-à-dire ne pas bouger dans ma foi, continuer à croire. Regarder, ne pas changer de place, fixer l'invisible lumière. Et faire cela pourquoi ? Pour faire plaisir au bon Dieu, pour lui manifester que je crois en lui et que je l'aime, pour m'abandonner à lui, pour m'unir à lui à Gethsémani, parce que lui aussi, il a expérimenté ces sombres ténèbres dans sa passion. Il aurait tellement voulu que Pierre, Jean, Jacques, vous veillez avec moi. Et ça, Thérèse va le comprendre, Jésus a soif que quelqu'un, que nous restions avec lui, même quand c'est difficile. Elle associe donc à ce regard, je reste encore un petit peu sur ce regard, si vous voulez bien, ça me semble si important, il y a le regard, il y a mon regard qui cherche à fixer la sainte face. Mais Thérèse insiste beaucoup, surtout au début de ses écrits manuscrits autobiographiques, sur le regard que Jésus pose sur elle. Me laisser regarder par Jésus. Thérèse a 7 ou 8 ans et elle prend la résolution de ne jamais s'éloigner du regard de Jésus. Elle donne une très belle image, elle était au bord de la mer à Trouville, ou je ne sais pas trop où, avec sa sœur, et il y avait le coucher du soleil. Et le coucher du soleil sur la mer, il fait une grande traînée de lumière. Et elle avait une peinture ou une histoire, je ne sais plus, où, qui racontait ce sillon d'or. Elle voyait donc ce sillon d'or, le soleil qui se reflète sur la mer. Il y avait à ce moment-là un petit bateau qui passait et qui était exactement dans le sillon d'or. Et ça l'a tellement frappée. Voilà le regard de Jésus posé sur elle, ce petit bateau. Et elle prit la résolution de ne jamais s'éloigner du regard de Jésus posé sur elle. Vous voyez, là, on a tout à fait Thérèse. Car nous sommes habités d'un doute profond quant à l'amour de Dieu. Que le Seigneur aime les autres, ça je peux le comprendre. Mais qu'il m'aime, moi, qu'il m'aime d'un amour de préférence, j'ai du mal à l'entendre. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à en vivre. Eh bien, pour en vivre, vous voyez, c'est cela, s'exposer au regard de Jésus. La fleur du divin prisonnier, c'est une petite image qu'elle a reçue au moment de sa première communion, elle a 11 ans, et on voit Jésus comme en prison, derrière la porte du tabernacle, avec des barreaux, et qui se penche pour regarder une petite fleur. Et Thérèse avait écrit en dessous de cette petite fleur, Thérèse. Et ce qui l'a charmé, c'était le regard de Jésus qui, derrière les barreaux du tabernacle, regarde avec amour sa petite fleur. Car c'est ainsi qu'il regarde Thérèse. Oui, mais nous, quand on entend ça, mais que le Seigneur regarde Thérèse avec amour, c'est normal. Elle est si belle, elle est si sainte, elle est si pure. Mais moi, nous comprenons que je peux très bien mettre mon nom. Alors la petite fleur, c'est une image très enfantine et féminine, ça parlera moins aux hommes. Peu importe, trouvons une autre image, mais laissons Jésus nous regarder et nous dire « Je t'aime. Je t'aime passionnément. J'ai livré ma vie pour toi. » Le nom de Jésus, le chant de son cœur, le regard de Jésus, son sourire. Elle ne cesse de le donner, et de le donner à ses sœurs qui l'entourent, mais aussi de le donner à Jésus. Elle s'entraîne à sourire quand c'est difficile, pour faire la joie de son Seigneur. Encore quelques petits moyens, puis je vais conclure. Elle ouvre son cœur à son confesseur. Vous voyez, ça, c'est une arme extrêmement puissante et capitale quand on vit quelque chose de difficile. Elle rencontre le père Godefroy Madeleine, qui vient prêcher une retraite les 8-15 octobre 1896, et elle lui dit en quelques mots ce qu'elle vit quant à son épreuve de la foi. Et il lui conseille d'écrire le credo et de le garder dans son évangile contre son cœur. Ce qu'elle mettra en pratique, mais elle y ajoutera un petit aspect, elle va l'écrire avec son sang, pour bien signifier ainsi au Seigneur qu'elle est prête à s'associer à lui jusqu'à mourir. C'est-à-dire, elle refusera de renier le Seigneur d'aucune manière que ce soit, quitte à ce que ça lui coûte la vie. Enfin, et je vais donc conclure avec ça, parce que c'est aussi une réalité très délicate à saisir et à comprendre, Thérèse en fait le moyen de descendre. J'ai eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises de l'importance qu'il y a de descendre à ses propres yeux. Thérèse en fait le moyen de s'humilier, de confesser son péché, de s'asseoir à la table des pécheurs, pécheur parmi les pécheurs. Et cela, c'est capital. Car rien ne plaît plus au Seigneur que l'humilité. Et donc rien n'est plus bénéfique pour notre âme, et pourtant nous ne l'aimons guère, que l'humiliation. L'humiliation peut venir de l'extérieur. L'humiliation peut être une attitude intérieure qui consiste non pas à monter. Ils discutaient entre eux de savoir qui est le plus grand. Et voilà, et là je monte. Mais il s'agit de descendre. Alors si je suis bien convaincu de l'amour que Dieu me porte parce que je me suis exposé à son regard, que j'ai appris à l'accueillir, que j'ai découvert l'amour de préférence que Dieu me porte, que je peux dire comme saint Jean, le disciple, que Jésus est aimé. C'est moi. Quand je peux commencer à dire cela, alors je peux descendre sans crainte de me décourager. Et Thérèse va aller loin, puisqu'elle va découvrir au travers de cette épreuve de la foi qu'elle fait une expérience de l'enfer. Elle écrit « Afin que le bon Dieu soit aimé éternellement dans ce lieu de blasphème. » Elle écrivait cela avant son épreuve de la foi. Le lieu de blasphème, c'est l'enfer. Or, ce qu'elle va craindre, au point qu'elle n'ose pas parler de son épreuve de la foi, c'est la crainte de blasphémer. Et une fois, elle en parle à une de ses sœurs et elle écrit « J'ai peur même d'en avoir trop dit. » dans son manuscrit B ou C. Le blasphème appartient à l'enfer. On peut donc dire que, à travers cette épreuve de la foi, puis à travers sa dernière maladie, sa tuberculose, sa mort, c'est une ultime purification que vit Thérèse, purification personnelle, je pense, de son perfectionnisme, de son amour-propre. Mais on en voit à l'évidence les fruits, parce que Thérèse, à partir de cette date-là, devient profondément humaine. Elle nous attire particulièrement par sa compassion, par sa joie, sa gaieté, son humilité, sa charité. Même ce qui faisait sa joie, sa richesse ultime lui a enlevé, c'est sa foi. Elle expérimente là une pauvreté radicale. Et elle le dit clairement, elle n'a plus rien. Sauf la seule chose qui compte, l'amour. Elle voit donc que la foi ne dépend pas d'elle d'abord, que la foi c'est un don de Dieu. Elle découvre qu'elle n'est pas meilleure que les autres. Alors elle s'assoit à la table des pécheurs et elle sent la flamme du blasphème l'effleurer. Et c'est ça qui va brûler et enlever définitivement tout levain de pharisaïsme, tout levain qu'on connaît bien dans notre cœur, qui consiste à penser que je suis meilleur que mon voisin. Surtout dans l'ordre spirituel, meilleur que toi, parce que moi, je prie plus que toi, parce que moi, je fais des bonnes œuvres mieux que toi, parce que moi, je vais à la messe bien régulièrement, parce que moi, je suis un bon chrétien, etc. Et cela, c'est le piège suprême de la vie spirituelle et surtout du chemin de sainteté. Donc impossible de toucher ce fond de l'humilité de Jésus sans descendre, descendre encore, descendre dans le drame du péché, jusqu'à, dit la tradition chrétienne, maintenir son esprit en enfer. C'est clairement exprimé aujourd'hui à travers la vie, la belle vie d'un témoin de la miséricorde qui s'appelle Saint Silouane de la Tosse. 1866, Thérèse c'est 1873, 1938, canonisé en 1994. Jésus lui a apparu très clairement alors qu'il luttait pied à pied contre le désespoir et lui a dit « Maintiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » Oui, mais là on est dans la cour des grands, si vous permettez que je parle comme ça. J'ai mis du temps à le comprendre, car Silouane est un grand, un très grand. Thomas Merton disait « C'est probablement le plus grand témoin, le plus grand moine du XXe siècle. » C'est un grand comme Antoine le Grand, comme Saint Sissoès, Saint Poémen, Saint Macaire le Grand, ces grands pères du désert qui ont expérimenté cela. Quand on entre sur un chemin de sainteté authentique, quand on est assis à la cour des grands, le risque, le piège, qui fut le piège de Lucifer, qui fut le piège d'Adam, c'est l'orgueil spirituel. Et le mode de traitement de cette tentation pour garder le don de la grâce sans être tenté de se croire supérieur aux autres, c'est-à-dire sans être tenté de prendre le don de Dieu. Je vous renvoie au Seigneur des Anneaux et à sa conclusion. Eh bien, l'enseignement de Jésus, puisque c'était dans les années 1900 à peu près, « Maintiens ton esprit en enfer ». Thérèse est dans la même disposition. Mais il y a une grande différence. Elle n'est pas à la cour des grands. Elle est à la cour des petits. Ouf, elle est avec nous. Maintenir mon esprit en enfer, ça m'est impossible. Chez Thérèse, ce n'est pas une disposition volontaire, c'est un consentement. C'est Dieu qui l'y met. Même si j'étais en enfer, je continuerai à te louer, disait Thérèse d'Avila. Notre petite Thérèse disait « Une parole m'a charmé toute ma vie », tirée du livre de Job, donc dans la traduction de la Vulgate, « Même si tu m'écrasais, je continuerai à croire en toi. » Cette parole m'a toujours fait frémir. Maintenant, je la comprends mieux. « Même si tu m'écrasais, Dieu n'a jamais écrasé qui que ce soit. » C'est le mal. Le mal. Sous toutes ses formes. Le malheur, la maladie, la mort, le mal, le péché, l'enfer. Voilà que ce mal peut me frapper et m'écraser. Et à ce moment-là, dans mon âme, mais où es-tu, Seigneur ? Il me faut comprendre que c'est ce mal qui m'attaque, mais Dieu combat avec moi. Et même en enfer, Jésus est là. Il a visité tous les endroits où Dieu n'est pas. Et donc même dans le néant, puisqu'il s'agit bien de néant dont Thérèse est tentée, même dans le néant, l'absence de Dieu, l'enfer, Jésus est là. Et c'est ça que Thérèse va expérimenter. Donc quand le mal nous frappe, ce n'est pas Dieu qui nous l'envoie, mais Dieu nous donne une grâce quand c'est l'heure des ténèbres, pour nous faire passer dans la puissance de la passion de Jésus et de sa mort vers sa résurrection. Et c'est bien cela que Thérèse va vivre. Cette épreuve, vous voyez, de la foi l'établit dans la vérité. Elle est pécheresse comme les autres, et jusqu'au fond. Et Dieu la préserve. Elle tient bien à la vérité. Elle n'a pas commis de péché mortel. Elle est d'une grande pureté. Et pourtant, pécheresse, comme nous tous. Et c'est pour ça qu'elle est si proche. Elle s'est assise à la table avec nous. Elle est dans la cour des petits. Et elle nous apprend à nous abandonner à la volonté de Dieu. Quoi qu'il nous arrive, vous voyez. si c'est Dieu qui nous y met, dans le sens, c'est Dieu qui permet, c'est la parole de saint Thomas d'Aquin qui a été inscrite dans le catéchisme, donc je ne la remettrai pas en cause, Dieu permet, même pour moi, si pour moi c'est bien difficile de dire que Dieu permet, parce que quand on permet, on est complice. Alors j'aime mieux le verbe d'un père de la Philokalie qui dit « Dieu concède ». Ah oui, je préfère. Dieu ne veut pas que le mal nous frappe. Marthe Robin dit « J'adore la volonté de Dieu qui s'accomplit même dans ce qu'il ne veut pas ». Dieu ne veut pas le mal. Mais il ne pouvait pas empêcher le mal, car s'il empêchait le mal, il empêchait la liberté. Donc il concède. Il y a des situations et il est avec nous. Il combat en premier avec nous. Il nous précède, il nous invite à le suivre pour nous mener de sa mort à sa résurrection.